Chapitre 53. La vérité. Samedi, 19 août 2000, 15h19, camp de la presqu'île sauvage, île de Mornesset. Au camp, tout le monde fut d'une grande douceur avec moi. On m'offrit à manger, mais je me contentais d'un peu de fromage et de fruits. Pendant que la police interrogeait Maddy et Armand, on m'envoya me reposer dans une petite pièce qui servait d'infirmerie. Il y avait juste un lit, une table de chevet en bois et une petite armoire à pharmacie. C'était également le local dont se servait le directeur pour isoler les adolescents en cas de punition. Le père Duval vint me voir un quart d'heure plus tard. À ce moment-là, je m'aperçus que je ne lui avais jamais parlé en tête-à-tête. Il devait me considérer comme un adolescent anonyme, un de plus, lui qui organisait des camps depuis plus de 30 ans. Je lui fus reconnaissant de ne pas chercher une confession ou même de simples confidences. « Colin, ton oncle et ta tante ont téléphoné. Ils seront là dans une heure ou deux. Je pense qu'ils devront parler à la police. Toi aussi. En attendant, je suppose que tu souhaites rester seul, dormir un peu. Ce serait bien si tu dormais. Tu en as besoin, je crois. Je te laisse. Je pense que tu n'as plus aucune envie de t'enfuir maintenant. De toute façon, ce n'est plus un camp d'adolescents ici. C'est un camp militaire, avec tous ces policiers dans la cour. Appelle-moi si tu as besoin. Je suis à côté. J'ai du travail, il faut que j'aille rassurer les autres familles. Bon courage. » Il me laissa. Allongé sur le lit, sur une couverture grise et rêche de collectivité, je tentais de faire le vide en moi. Impossible de dormir. À l'extérieur de la tente, j'entendais l'agitation. Des voix d'adultes, des flics sans doute, parlant fort dans des tokiboki. Tout me semblait irréel. J'avais l'impression d'être dans une chambre d'hôpital et d'avoir rêvé tout ceci. J'occupais une chambre de fou. J'étais dans un asile. Lorsque je fermais les yeux, inévitablement, le visage de mon père me revenait. Ce visage souriant, avec ma mère et moi, devant l'abbaye, sur la photo posée sur ma table de nuit. Ce visage si fier, heureux, rassuré lorsque j'avais récupéré le dossier du notaire. Ce visage si dur, quelques minutes plus tard. Cette main sans alliance qui tordait le bras de Maddy. Cette bouche qui me demandait de me souvenir. Me souvenir de quoi ? J'avais 6 ans alors. Il fallait que je me souvienne de ce repas, ce dernier repas. À force de me concentrer, paupières fermées, pensées vidées, quelques bribes de souvenirs revenaient. Pour la première fois, je revoyais ma mère. Elle se tenait debout. Elle portait une robe de lin ample sur laquelle tombaient ses longs cheveux blonds. Elle était belle. Pâle, mais très belle. Elle regardait de chaque côté les hommes se disputer. Elle voulait parler, mais personne ne l'écoutait. Elle ramassait avec détermination une pile d'assiettes sales et s'éloignait de la table. En partant, elle me jeta un regard amusé pour me rassurer, comme pour me faire comprendre que toutes ces querelles de grandes personnes, ce n'était pas grave. Je la regardais s'en aller. Elle marchait nu-pied, sous sa longue robe paysanne. Je me levais pour la suivre. Impossible. Une main ferme me retenait. La main de mon père. Il me serrait le bras. Il se penchait vers moi. Il avait un verre à la main. Je ne voyais que sa bouche désormais. Il voulait me parler, tout doucement, presque sous la nappe, à l'abri des regards des autres. Il posait son doigt sur ses lèvres et se penchait vers mon oreille, comme pour me confier un secret. « Colin ! Colin ! Colin, réveille-toi ! Ton oncle et ta tante sont arrivés !» Le père Duval s'effaça et Thierry et Brigitte entrèrent. Brigitte s'assit sur le bord de mon lit. Thierry, lui, s'appuya sur la table de chevet devant une petite glace. Je me redressai. Thierry portait une sorte de polo criard orange qui lui donnait un air faussement décontracté. Brigitte, par contre, m'étonna. Il ne lui restait plus grand-chose de son assurance habituelle. Certes, son maquillage et sa robe à fleurs bien coupées pouvaient faire illusion, mais je la connaissais trop. Elle avait pleuré, elle avait craqué. Elle, si stricte, si droite, ses yeux étaient encore brouillés. Elle ne parvenait pas à me regarder. « Je pense que nous te devons quelques explications, Colin, » commença Thierry. J'étais assis en tailleur. Je sentais en moi une nouvelle force, une flamme encore un peu faible, mais une lueur tout de même. J'étais chez moi, dans ce camp, sur cette île, au milieu d'adolescents de mon âge. J'étais adulte, j'étais capable d'écouter leurs mensonges. J'avais le droit de ne plus les croire. « Les policiers nous ont dit que tu as retrouvé Jean, » continua Thierry. Un silence. Je le laissais venir. Enfin. Tu dois nous en vouloir, fit mon oncle, de t'avoir caché la vérité toutes ces années. De t'avoir fait croire que ton père était mort. Tu comprends aujourd'hui pourquoi on ne t'a rien dit, après ce qui s'est passé, après ce qu'il t'a fait. Il y avait plusieurs enfants de foyer dans mon bahut. On les séparait de parents violents ou alcooliques ou pédophiles pour les protéger. Ces choses-là arrivaient. Tous ces enfants avaient envie de vivre avec leurs parents pourtant. On devait les protéger, les séparer de leur mère, de leur père, malgré eux. Brigitte se mit à sangloter. Thierry se pencha vers elle et lui tendit un mouchoir en papier. Malgré les événements récents, je détestais la façon dont Thierry parlait de mon père, cette façon de dire « après ce qu'il t'a fait », même s'il l'avait fait. Mon père venait de m'enterrer vivant avec deux de mes amis. Mon père était un monstre. Pourtant, je n'arrivais toujours pas à accepter qu'on dise du mal de lui. Étais-je devenu fou ? « Tu veux en savoir plus, Colin ?» demanda Thierry. Sans dire un mot, j'acquiesçais de la tête. « C'est assez simple. Je pense que tu connais déjà l'essentiel. La passion de ton père pour les fouilles l'a petit à petit isolé du reste du monde. Sa passion pour ce trésor aussi, la folie Mazarin. La folie. Un nom prémonitoire. Ton père n'arrivait pas à accepter que le chantier puisse fermer, que son utopie ait échoué, qu'il nous faille passer à autre chose, que l'archéologie, la vie en communauté, c'était fini. Ce chantier, l'abbaye, c'était toute sa vie. Il en était le chef, le fondateur, le maître de tout ce petit monde. Il avait beaucoup changé, tu sais. Il s'était construit une double personnalité. D'un côté, l'homme public, cultivé, généreux, passionné. De l'autre, une forme de paranoïa. Enfermé dans sa passion monomaniaque, il finissait par voir partout des complots contre lui. C'est difficile à admettre, mais tu as pu expérimenter par toi-même ces deux facettes. Non, je ne l'admettais pas. Je ne voulais pas l'admettre. Brigitte sanglotait toujours. Elle, si bavarde d'habitude quand il s'agissait de manier les lieux communs, semblait incapable d'exprimer le moindre mot. Thierry poursuivait. Il n'écoutait plus personne. Pas même ta mère, pas même moi, pas même Maxime. Il n'écoutait plus personne dans l'association. Il se méfiait de nous, entêté, endetté jusqu'au cou. Des dettes qu'à part ton père, tout le monde ignorait. Il était dans une impasse. Alors il a fini par s'associer avec cet entrepreneur irresponsable, Gabriel Bordery, un charlatan qui courait déjà après ta mère sur les bancs des amphis. Personne n'était d'accord pour cette coopération avec Eurobuild. La boîte n'était pas fiable, mais son PDG était un ami proche de ton père. Le terrain aussi était dangereux. Il n'aurait pas dû être constructible. Mais ton père s'est arrangé. Il avait beaucoup d'amis sur l'île. Des amis pas très recommandables. Ce qui devait arriver arriva. L'accident. La mort de trois ouvriers. Le scandale. L'absence de toute légalité sur le chantier. L'absence même d'assurance. Le fiasco sur tous les plans. Le procès assuré. La prison. Alors ton père a fichu le camp. Sans rien assumer. Sans rien rembourser. Il faut que tu le saches, Colin. Je savais maintenant. J'encaissais. Un père qui n'hésitait pas à enterrer vivant son propre fils ne devait pas hésiter non plus à se lancer dans des trafics immobiliers, à s'enfuir ensuite, sans ma mère, sans moi, avec cette fille rousse, cette Jessica. Je le savais, et pourtant aussi absurde que cela puisse paraître, je ne parvenais pas à croire un mot de ce que me racontait mon oncle, cet oncle qui n'était rien pour moi. Cet oncle pour qui j'avais si peu d'estime et qui semblait si fier de triompher, de salir devant moi l'image de mon père. Thierry se regarda un court instant dans la petite glace et rajusta le col de son polo. Comme s'il vivait son heure de gloire, pensais-je. Son triomphe, enfin. « Officiellement, continua-t-il, ce scandale s'est conclu par le suicide de ton père. Cela arrangeait tout le monde, surtout sur l'île. Pas de procès, l'affaire était enterrée. Mais pas grand monde n'était dupe, en fait. Ton père avait beaucoup d'amis, il était influent. Maquiller sa mort ne fut pas très difficile. » J'explosai soudain. Vous étiez au courant qu'il était vivant, depuis le début ? M'écriai-je d'une voix dont la fermeté m'étonna moi-même. Oui, répondit calmement Thierry. Ta mère aussi, elle nous l'avait dit. Elle a beaucoup souffert, elle aussi. Beaucoup trop souffert. Tu ne peux pas t'en souvenir, mais ton père n'était pas quelqu'un de très fidèle, de très loyal avec ta mère. Ne mêle pas maman à cela ! Criai-je dans ma tête. Mais malgré moi, je repensais à la prophétie de ma mère. Ces dernières paroles qui m'avouaient à demi-mot que mon père n'était pas mort, qu'il était seulement parti loin. Et son désespoir aussi. Son désespoir d'avoir épousé un être devenu fou, criminel, infidèle. Un désespoir qui l'avait poussé jusqu'au suicide. Comme un oiseau de mauvais augure qui ne s'arrête jamais, Thierry parlait. Il nous a envoyé de temps en temps des lettres, rarement. pour prendre de tes nouvelles. Ton père est quelqu'un d'inconstant, et cette histoire de folie Mazarin l'obsédait toujours. Il pensait que tu connaissais une partie de la vérité. Tu nous en veux sûrement beaucoup, Colin, mais nous avons essayé de te protéger. Nous avons fait comme nous avons pu. Nous avons peut-être été maladroits, mais on ne pouvait pas te dire la vérité. Je voulais qu'il arrête, qu'il se taise. Quelle monstruosité allait-il encore me jeter à la figure ? Il n'y a pas que toi qui l'a manipulé, poursuivait Thierry. Il a fait la même chose avec Anne, ta maman, ma sœur unique. Une scène étrange se déroula à cet instant. Brigitte, le visage toujours bouffi de larmes, se leva et se pencha vers moi comme pour me prendre dans ses bras. Jamais de sa vie elle n'avait eu envers moi un tel geste de tendresse, même il y a 10 ans. Je fus tellement surpris que je faillis à mon tour m'abandonner dans ses bras, comme un petit enfant. Thierry attrapa le poignet de sa femme, presque violemment. « Non, Brigitte, retiens-toi. Tu ne vas pas craquer maintenant. » Elle fit un signe négatif de la tête, renifla et s'effondra à nouveau sur le lit. Une impression de plus en plus évidente montait en moi. Tout ce qu'on me racontait dans cette chambre d'infirmerie puait le mensonge. Thierry m'observait, guettant mes réactions, les anticipant. Il s'attaqua une nouvelle fois à mes défenses. « C'est difficile à digérer, Colin, je comprends. Tu croyais que ton père était un héros mort. Tu découvres en réalité qu'il est un salaud vivant. » Mon mutisme n'était pas difficile à décrypter. « Je ne te force pas à me croire, Colin. Je sais bien que tu ne m'aimes pas beaucoup. Il te faudra du temps pour accepter. Finalement, c'est presque une chance qu'il ait essayé de te tuer, toi, son propre fils. Cela t'aidera à accepter l'évidence. » Thierry tendit son bras vers Brigitte et posa sa main sur son genou. Un geste tendre, comme je ne l'avais jamais vu en avoir. Il continua. « La vérité, en réalité, tu l'as déjà admise. Colin, ton problème n'est plus de la connaître. Il te faut juste l'accepter. » Salaud, salaud. Je le haïssais d'avoir raison. Je le haïssais de n'avoir rien à lui reprocher. De n'avoir rien à reprocher à mon oncle et d'avoir tout à reprocher à mon père. Mon cœur me dictait l'inverse. Je tentais une riposte timide. Tout le monde m'a dit que mon père était quelqu'un de formidable. Tout le monde me l'a dit sur l'île. Brigitte prit enfin la parole, d'une voix cassée. Les gens n'ont pas voulu te faire de mal, Colin. Les gens ont voulu te protéger. Et puis, Thierry reprit la main, froidement. Ton père a impliqué beaucoup de gens sur cette île. Dénoncer ton père, c'était se dénoncer eux-mêmes. Non, cela ne pouvait pas être si simple. Et Nounou, et le notaire Serge Bardon, et le journaliste de Lilien, tous complices, tous menteurs, tous trompés par la double personnalité de mon père ? Thierry se recoiffait dans la glace. Je le détestais. J'avais besoin de savoir. Pourquoi est-ce qu'il a voulu me retrouver ? À cause du notaire ? Thierry sourit, comme s'il avait réponse à tout. L'histoire du notaire n'était qu'un prétexte pour te faire venir sur l'île. Il n'y avait rien ou presque dans ce dossier. C'était bidon. Une mise en condition, si tu préfères. La véritable raison, c'était la folie Mazarin, ce trésor. Je ne sais pas pourquoi, mais il semble que tu connais une partie de la vérité sur ce trésor. Il nous interrogeait souvent à ce propos dans ses courriers. Même cette histoire de notaire était un prétexte alors. Cette histoire d'aveu et de propriété. Tout ce qui intéressait mon père était un souvenir enfoui dans mon cerveau. Thierry se pencha vers moi, posa sa main sur ma cuisse. Lui non plus ne l'avait jamais fait. Tu ne te souviens vraiment de rien, Colin ? Lui aussi alors. Lui aussi, tout ce qui l'intéressait, c'était ce souvenir soi-disant caché quelque part dans ma mémoire. Je jouais les idiots. Me souvenir de quoi ? De ce que je viens d'évoquer. Un souvenir au fond de toi, la folie Mazarin. Une nouvelle fois, les dernières images du repas de l'abbaye me revinrent. Celles de la dispute, de ma mère en robe de lin, de mon père qui me tenait l'avant-bras et qui se penchait vers moi pour me dire quelque chose à l'oreille. Une sorte d'instinct m'empêchait de leur révéler quoi que ce soit. « Non, » fis-je d'une voix que j'espérais naturelle. « Je ne me souviens de rien. » Thierry se contenta de ma réponse, mais je fus persuadé que Brigitte avait remarqué mon hésitation. Mon oncle se regarda une dernière fois subrepticement dans la glace. « Tu veux qu'on te laisse ou tu veux en savoir davantage ?»«
Je préfère que vous me laissiez. »«
D'accord. On repartira demain matin, si la police est d'accord. Cela vaudra mieux pour tout le monde. » Il me regarda, un peu gêné, et se retourna, invitant du regard Brigitte à faire de même. Brigitte traîna un peu. Ma tante me fit la bise en me serrant fort dans ses bras, trop fort. Ses lèvres chuchotèrent à mon oreille, discrètement, presque sans bouger, un court mot que Thierry ne put entendre. « Pardon. » Elle sortit à son tour. Malgré les évidences, les faits, la raison, ma propre expérience, malgré tout, une seule pensée m'obsédait. Une pensée ridicule, mais qui seule me donnait la force de ne pas écraser ma tête sur ce mur de briques ou m'étouffer sous cet oreiller jauni. Je ne croyais pas un mot de tout ce qu'il venait de me raconter.